Bonjour à tous. Merci pour la lecture du texte de ce jour, pour la prière également qui met en valeur la parole de Dieu, parce que c'est vraiment Dieu qui nous parle lorsque nous ouvrons sa parole. C'est vraiment lui qui s'adresse à nos cœurs lorsque nous sommes disposés à l'écouter. Selon vous, combien de lois avons-nous en France? Est-ce que quelqu'un aurait une estimation? Bon, c'est un peu difficile. Selon une estimation de 2008, donc ça fait déjà 10 ans, nous avons déjà atteint plus de 10 000 lois, sans compter les autres textes réglementaires. 10 000 lois en France, et je suis sûr que vous ne les connaissez pas toutes. Partout où il y a de la vie, des relations humaines, il y a des lois, des règles à respecter. Nous parlons du savoir-vivre, du savoir-être, du vivre ensemble. Et à titre individuel, nous suivons tous aussi des lois, des principes, des codes de conduite. Par exemple, dans une file d'attente, nous respectons l'ordre de priorité, en principe. Et nous savons que dépasser quelqu'un sans lui demander fait entorse à cette règle de la priorité. Certains se fixent la règle d'être ponctuel parce qu'on les a éduqués ainsi et qu'on leur a appris que ce n'était pas très respectueux d'arriver en retard. D'autres, au contraire, ne semblent pas connaître cette règle. Et d'autres encore suivent la règle d'or de faire pour les autres ce qu'ils veulent qu'ils fassent pour eux. Et ici, la règle est tirée de la Bible. Et effectivement, la Bible contient beaucoup de commandements que Dieu a donnés à son peuple, comme par exemple les 10 commandements. Je suis certain que vous les connaissez par cœur, les 10 commandements. Tous ces commandements expriment ce que Dieu attend de nous. Ces commandements nous révèlent qui est Dieu et ce qui lui plaît. Par exemple, Dieu est juste et il aime que nous pratiquions la justice. Dieu est bon et il attend de nous que nous soyons bons envers les autres. Cependant, parce que nous sommes pécheurs, nous n'aimons pas forcément le mot commandement. Cela titille le ou la rebelle qui est en nous. Faire ceci, faire cela, mais j'ai pas trop envie. Ne surtout pas faire ça. Oui, mais pourquoi? Il y a une part de nous qui a envie de se rebeller lorsqu'on parle de commandement. Pourtant, comme je viens de le mentionner, nous suivons tous des règles. Des règles que nous avons intériorisées et qui, en quelque sorte, dictent notre conduite. Alors, qui de mieux placé que Dieu pourrait nous dicter, finalement, ce que nous devons suivre comme commandement? En réalité, seul Dieu qui est parfait peut donner des commandements parfaits pour notre vie. Et dans le texte d'aujourd'hui que nous venons de lire, et surtout je me concentrerai sur les versets 3 à 11, il est aussi question de commandement, au pluriel. Et visiblement, cette question n'intéressait pas trop ceux qui, à cette époque, avaient quitté les rangs de l'Église, ceux qui avaient commencé à enseigner des erreurs. Ils disaient aux chrétiens, « Venez, nous avons découvert quelque chose de nouveau. » Nous avons découvert qu'il existe une connaissance supérieure que vous n'avez pas. Voilà ce qu'il disait aux chrétiens. Pour faire court, une connaissance mystique, mais qui n'a rien à voir avec l'enseignement chrétien. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, qui est l'auteur de cette épître, l'apôtre Jean écrit aux croyants d'Asie mineure pour affirmer ce que signifie être chrétien, ce que ça veut vraiment dire. Jean leur confirme qu'ils sont chrétiens, eux, à qui il s'adresse, pas ceux qui cherchent à les égarer. Et Jean donne plusieurs signes distinctifs pour reconnaître un chrétien. Et dans notre texte, l'apôtre explique que les chrétiens, ce sont celles et ceux qui connaissent vraiment Dieu. Et cela s'exprime par leur manière de vivre. Ils ne vivent pas comme les autres parce qu'ils suivent les commandements de leur nouveau maître, Jésus-Christ. Et cet après-midi, Dieu nous appelle à vivre comme Jésus. Je pense que dans ce que je viens de dire, il n'y a rien de nouveau. Mais à travers ce texte, Dieu nous appelle à vivre comme Jésus. Et principalement, nous pouvons distinguer deux signes qui caractérisent les chrétiens, qui les distinguent des autres. Le premier signe, c'est qu'ils obéissent à Dieu. Et le deuxième signe, c'est qu'ils aiment leurs frères, leurs sœurs. Commençons par cet aspect d'obéir à Dieu. Dans les versets 3 à 6, et dans la continuité déjà du premier chapitre, l'apôtre Jean donne une nouvelle clé pour distinguer les vrais chrétiens des autres. Et ce signe distinctif, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Jean répond en quelque sorte à la question « Comment savoir si je suis vraiment chrétien ?» Comment savoir si je suis vraiment chrétienne ? Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, alors même que vous vous êtes converti. Comment savoir que finalement, ce n'était pas lié juste à une expérience personnelle ? Eh bien, regardez avec moi au verset 3. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Ici, l'affirmation est posée comme une certitude. Nous savons. Nous savons que nous sommes vraiment chrétiens quand nous commençons à appliquer ce que Dieu nous demande de faire. Lorsque quelqu'un devient chrétien, les premiers changements que nous remarquons se situent dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de vivre. Cette personne abandonne petit à petit les mauvaises habitudes qui caractérisaient son ancienne vie. Cette personne renonce peu à peu à ses propres règles pour adopter les règles de Dieu, pour arrêter de faire ce qu'elle veut et commencer à faire ce que Dieu veut. Mais soyons plus précis. Jean écrit que l'obéissance au commandement est une preuve certaine que nous connaissons le Christ. C'est une preuve que nous avons une relation vivante avec le Christ, que nous le connaissons personnellement. Ce ne sont pas simplement des informations que nous avons au sujet de Jésus-Christ, mais nous le connaissons personnellement. En tant que chrétiens, nous ne suivons pas de simples règles pour avoir bonne conscience. Nous ne faisons pas le bien juste pour nous sentir bien dans notre peau. Autrement, nous agirions comme tant d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ce qui diffère, c'est que nous sommes dans une démarche d'obéissance. Mais ne faisons pas comme les pharisiens. Les pharisiens qui obéissaient à des règles et qui obéissaient à des traditions. Mais nous obéissons à quelqu'un. Nous obéissons à Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre nouveau maître. Celui que nous nous sommes engagés à suivre. Et celui qui prétend le connaître sans obéir à ses commandements est qualifié de menteur par l'apôtre Jean. Et l'apôtre s'en prend à ses enseignants qui prétendaient avoir une connaissance de Dieu, mais sans vivre comme Dieu le demandait. La connaissance seule ne suffit pas. Ce que Dieu demande à ses enfants qu'il a déjà sauvés, c'est de garder ses commandements, c'est de les observer, c'est de vivre en se conformant à sa volonté. Et je précise bien que Dieu demande cela à ses enfants, à ceux qu'il a déjà sauvés. Ce qui montre bien que le fait d'obéir à Dieu ne nous sauve pas. Dieu nous a déjà sauvés si nous avons placé notre confiance en lui. Mais notre obéissance est nécessaire pour que nous puissions grandir et ressembler toujours davantage à Jésus. Nous comprenons alors que l'obéissance chrétienne a cela de particulier qu'elle s'inscrit dans une relation vivante avec Dieu. L'obéissance chrétienne s'inscrit dans notre relation avec Dieu. Nous n'obéissons pas juste à des règles, mais nous obéissons à Dieu. Mais allons un peu plus loin. Verset 5. « Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. » Nous pouvons comprendre ce verset de plusieurs manières. Aimer Dieu de façon parfaite, cela nous semble impossible dans cette vie terrestre. Alors, soit Jean est en train de décrire un idéal vers lequel nous devons tendre, soit Jean décrit la maturité de notre amour pour Dieu qui grandit au fur et à mesure que nous lui obéissons. Plus nous obéissons à sa parole, et plus nous démontrons notre amour pour Dieu. Un amour sincère. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire parce que nous l'aimons. Et parce que Dieu va nous demander de faire quelque chose, eh bien, nous allons commencer à y attacher de la valeur, parce que ça vient de lui. N'oublions pas que Dieu a changé notre cœur, et que c'est pour ça que nous sommes capables d'aimer Dieu, que c'est pour ça que nous sommes capables d'aimer sa parole, que c'est pour ça que nous commençons à aimer ses commandements, ce mot qui nous hérisse le poil. Mais Dieu œuvre en nous par son esprit et nous permet de l'aimer, lui. Quand j'étais petit, ou un peu plus jeune, je n'étais pas un enfant très sage. Je faisais pas mal de bêtises. Et lors de la fête des mères, je demandais à ma mère quel cadeau lui ferait plaisir. Et vous savez ce qu'elle me répond ? Elle me répondait souvent qu'elle préférait mon obéissance à mes cadeaux. Alors sur le coup, ça me faisait de la peine. Mais elle préférait mon obéissance à mes cadeaux. C'était pour elle la meilleure preuve de mon amour pour elle. Et de la même manière, la meilleure preuve de notre amour pour Dieu, c'est d'observer sa parole dans notre vie. C'est de faire de ses commandements nos règles de vie. C'est de prendre en considération ce qu'il nous demande de faire, lui qui est notre Père et nous qui sommes ses enfants. Autrement dit, je saurai que vous aimez Dieu, non pas en observant votre implication dans l'Église, mais en regardant à votre vie. Et de la même manière, c'est en observant ma vie que vous saurez si le pasteur aime Dieu ou pas. Alors je ne dis pas cela pour nous surveiller, mais plutôt pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Verset 6. « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Voilà un défi pour ceux qui prétendent avoir une relation avec Christ sans vraiment savoir ce que cela signifie ni ce que cela implique. Jésus a vécu une vie parfaite. Nous sommes d'accord avec ça. Une vie tellement parfaite qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il a tout accompli sur la croix. Nous l'avons chanté déjà durant ce culte. Il est un modèle pour nous, un exemple à suivre. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous ne pouvons pas vivre autrement que lui. Et Dieu a d'ailleurs le merveilleux projet de nous rendre semblables à lui. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul écrit « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. » Dieu a le projet de nous rendre conformes à Jésus-Christ. Mais que signifie vivre comme il a vécu ? Est-ce que nous allons porter des sandales, manger du poisson et des figues et enseigner à des foules affamées ? Est-ce que vous pensez que c'est le style de vie que Dieu nous appelle à adopter ? Non, évidemment. Littéralement, nous lisons que nous devons marcher comme lui-même a marché. Et les quatre évangiles ainsi que le reste du Nouveau Testament nous révèlent que Jésus a vécu en obéissant à Dieu, son Père. D'ailleurs, lui-même le dit, et nous le lisons dans Jean 15, 10, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, c'est Jésus qui parle, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Est-ce que ta vie ressemble à celle de Jésus ? Est-ce que ta vie est une vie d'obéissance ? Et pour obéir aux commandements de Dieu, la première chose à faire est de les connaître. Nous ne pouvons pas obéir à des commandements que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas observer la parole de Dieu si nous ne la lisons pas. Pour les chrétiens de l'époque, ils n'avaient pas la Bible en entier. Ils avaient tout l'Ancien Testament. Ils avaient reçu aussi l'enseignement des apôtres. Mais Jean écrit notamment au verset 14 de notre texte que la parole de Dieu demeurait en eux. Aujourd'hui, nous avons toute la Bible pour guider notre vie. Dieu y a laissé ses instructions, des instructions qui sont bonnes pour nous. Alors, ne passons pas à côté de ce que Dieu veut nous dire au quotidien. Demandons à Dieu, parce que souvent c'est difficile, demandons à Dieu de renouveler notre amour pour lui. C'est lui qui peut renouveler cet amour pour lui. De telle sorte que nous revenions à sa parole et que nous ayons envie de savoir ce que notre Père Céleste veut nous dire. Demandons-lui de renouveler cet amour en nous. Et concrètement, si vous voulez vivre comme Jésus a vécu, eh bien, commencez par lire ou relire les évangiles. Ça peut être un point de départ. Comment Jésus a vécu ? Eh bien, lisons Matthieu, Marc, Luc et Jean, et nous saurons comment Jésus a vécu. Je me souviens de cette époque où nous portions parfois des bracelets qui indiquaient qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, sous-entendu, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces bracelets qu'on portait, bon, c'était écrit en anglais, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Mais moi, j'aimerais plutôt poser la question, qu'est-ce que Jésus a fait déjà lorsqu'il était sur terre ? Et pour le savoir, nous avons besoin de connaître les évangiles. Mais si nous voulons aussi connaître plus précisément l'enseignement de Jésus, eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est de lire par exemple le sermon sur la montagne. Dans Matthieu, chapitre 7, 5 à 7. Le sermon sur la montagne, là où Jésus donne la loi du royaume, là où Jésus reprend la loi de Moïse, il n'est pas en train d'énoncer une nouvelle loi, mais il corrige la manière dont on pouvait l'interpréter à l'époque. Méditons sur ce sermon sur la montagne. Et j'aimerais simplement vous lire un extrait. Dans Matthieu chapitre 5, nous lisons verset 21, et c'est Jésus qui parle. « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Eh bien, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. C'est juste un extrait. Mais déjà, il y a des choses à appliquer. Le verset 23 dit « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. » Parfois, je me demande, est-ce qu'on oserait, pendant le culte, faire cela ? Je sais que je dois me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur. Mais avant de pouvoir adorer Dieu comme il le faut, est-ce que je ne devrais pas aller le voir ? Je vous laisse découvrir la suite du sermon. Et fort heureusement, nous n'avons pas besoin de tout connaître avant de commencer à mettre en pratique. Et si vous êtes déjà un lecteur assidu de la Bible, comment mettez-vous la parole de Dieu en pratique au quotidien ? Comment est-ce que vous gardez les commandements de Dieu ? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui vous guide dans vos choix, dans vos décisions, dans vos relations ? Mais j'aimerais simplement vous encourager, comme le fait l'apôtre Jean. Si vous avez commencé à obéir à Dieu, vous pouvez être sûr que vous êtes chrétien. Nous venons de voir le premier signe distinctif des chrétiens, l'obéissance à Dieu, selon le modèle de Jésus-Christ. Mais voyons à présent le deuxième signe distinctif, le fait d'aimer son frère, sa sœur en Christ. Je relis avec vous le verset 6. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Nous avons évoqué que la vie de Jésus était marquée par son obéissance à Dieu. Mais nous pouvons aussi dire que sa vie était marquée par l'amour. Dans les versets 7 et 8, Jean dit « Tantôt que le commandement est ancien, tantôt que le commandement est nouveau. » Alors on va essayer d'examiner ça de plus près. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tantôt il est ancien et tantôt il est nouveau. Le commandement dont il est question ici, et d'après les versets suivants, c'est le commandement de l'amour. Certains comprennent qu'il est ancien parce que toute la loi de Dieu est résumée dans les commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais d'autres comprennent que l'ancienneté ici, il faut le comprendre dans le sens où les chrétiens ne découvrent pas ce commandement. Lorsque Jean leur écrit, ce n'est pas un commandement nouveau pour eux. Ils ont déjà été instruits au sujet de ce commandement. Ils l'ont déjà entendu dès le commencement, verset 7. Et dès le commencement, ça veut dire dès le début de leur vie chrétienne. Dès le début de leur vie chrétienne, ils ont appris ce que Jésus a commandé à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Et d'un autre côté, c'est Jésus qui l'introduit comme un nouveau commandement. Vous connaissez sans doute ce passage dans Jean 13, 34, où Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et vous remarquez que le modèle pour s'aimer les uns les autres, c'est encore une fois Jésus. Comme je vous ai aimé. Certains commentateurs soulignent que la nouveauté réside en Jésus parce qu'il est le premier et le seul à avoir accompli pleinement le commandement d'aimer. Lui seul a aimé comme aucun autre. Aucun homme n'a su aimer comme il l'a fait. Et c'est sur la croix C'est sur la croix que Jésus nous montre d'une manière suprême son amour. Jean va d'ailleurs l'écrire un peu plus tard dans cette même lettre. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà ce qu'est aimer. Jésus nous l'a pleinement montré. Et à présent, les disciples de Jésus, et si nous croyons en lui, nous en faisons partie, les disciples de Jésus aiment suivant son modèle. En tout cas, ils apprennent à aimer comme Jésus les aime. Mais la nouveauté, c'est aussi que Jésus a ouvert une nouvelle ère. Lorsque Jésus est venu sur terre, c'est une nouvelle saison, si vous voulez, qui a commencé. Une nouvelle saison où les ténèbres se dissipent et où la véritable lumière brille. Et cette lumière, c'est Jésus. Une lumière qui brille déjà. Parce qu'avec Jésus, le royaume de Dieu a fait irruption dans notre monde. Mais il reste encore des ténèbres dans le monde qui nous entoure. Et nous retrouvons cette opposition entre lumière et ténèbres, comme dans le premier chapitre, si vous vous en souvenez. Verset 9. « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et par conséquent, il est dans la lumière, aucun obstacle ne risque de le faire tomber. » Aimer son frère ou aimer sa sœur, c'est assurément l'attitude de quelqu'un qui marche dans la lumière. Et de ce fait, celui ou celle qui marche dans la lumière ne risque pas de tomber, ne risque pas de faire du mal aux autres. Celui ou celle qui aime son frère, sa sœur, va chercher à lui faire du bien. Par contre, celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas sa sœur, est du côté des ténèbres. Jean utilise ici le verbe « détester ». Le terme est fort. Et c'est comme si pour Jean, il n'y avait pas d'entre-deux. Soit on aime nos frères, soit on les déteste. Et lorsque nous nous montrons indifférents à l'égard de nos frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de les aimer. Et je confesse qu'il m'arrive encore trop souvent d'être indifférent, de manquer d'amour envers celles et ceux qui font partie de la même famille que moi, la famille de Dieu. Et j'ai besoin de ce commandement nouveau. J'ai besoin de ce commandement pour me stimuler, pour mieux vous aimer. Nous avons besoin de ce commandement nouveau pour mieux nous aimer. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que aimer, c'est un commandement? Est-ce qu'on peut commander d'aimer? Est-ce que aimer, ce n'est pas naturel? Eh bien, selon la Bible, aimer, c'est un commandement. Et Dieu nous demande de le faire parce que nous avons tendance à ne pas aimer. Et nous avons besoin d'entendre encore et encore que c'est un commandement nouveau. Alors, Jean abordera un peu plus tard le thème de l'amour fraternel. Et on le verra dans quelques semaines, plus en détail. Mais d'emblée, j'aimerais encore insister sur l'importance de ce commandement. Pourquoi est-il si important? Si vous êtes chrétien, vous savez que vous retrouverez les frères et sœurs de cette Église dans l'éternité. Les relations que nous entretenons ici-bas sont précieuses. C'est Dieu qui nous a voulu dans sa famille. J'ai dit tout à l'heure que Jésus avait ouvert une ère nouvelle, une saison nouvelle. Et nous vivons sur cette terre en vue de nous préparer à vivre sur la nouvelle terre. Et nous pouvons déjà, dès à présent, appliquer ce commandement de nous aimer les uns les autres. Et vous savez, en y réfléchissant d'un peu plus près, dans le royaume de Dieu, Le seul commandement que nous suivrons, en plus de celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est celui d'aimer notre frère, notre sœur, en Christ. Le seul commandement que nous suivrons, en plus d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est d'aimer notre frère, notre sœur en Christ. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des frères et des sœurs en Christ. Alors ça commence déjà dès maintenant. Et que cette perspective de l'avenir, dans l'éternité, nous encourage déjà d'autant plus à aimer notre frère et notre sœur en Christ. Et quel privilège d'être une église locale pour pouvoir vivre ces relations d'amour fraternel. Si seulement ça pouvait ressembler à ça. Mais bien plus, si seulement je pouvais remplacer cette photo et mettre une photo de nous. S'aimer les uns les autres, c'est un commandement du Seigneur. Comment vas-tu l'appliquer aujourd'hui, tout de suite après le culte? Comment vas-tu aimer ton frère, ta sœur? Comment, durant cette semaine, vas-tu appliquer ce commandement de Jésus? Est-ce que cette semaine, tu vas te préoccuper de ton frère, de ta sœur, dont tu sais qu'il y aurait besoin de soutenir, d'apporter le soutien à cette frère ou à cette sœur? Je crois que, effectivement, nous avons besoin de prendre aussi du temps, et notamment le dimanche, pour nous écouter les uns les autres. Parce que si nous prenons le temps de nous écouter, eh bien, peut-être que l'autre nous confiera quelque chose. Et combien nous avons besoin des uns et des autres pour vivre cette vie sur terre. Et une des manières concrètes de nous aimer, c'est de nous soutenir dans nos difficultés. L'Église, ça peut être ça, mais l'Église, ça peut être ça aussi. Comment, combien nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et cette semaine, alors que je préparais cette prédication, j'ai reçu un message qui m'encourageait à écrire à une sœur qui s'était éloignée du Seigneur. Alors, je ne suis pas particulièrement proche de cette sœur, mais j'ai quand même écrit ce mot. Parce que c'est ma sœur. Ici, dans l'église de Saint-Maur, appliquons ce commandement nouveau. En nous encourageant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, mais je dirais même en priant les uns avec les autres. Et prenons pour modèle inspirant Jésus, qui nous a tant aimés, plus qu'aucun autre homme. Inspirons-nous de son amour pour nous, afin d'aimer nos précieux frères et sœurs. La dernière fois, l'exhortation était de marcher dans la lumière durant cette année. Et je sais que c'était votre thème de l'année 2019. Mais j'ai l'impression que Dieu veut que nous continuions à marcher dans la lumière en 2020. Et cet après-midi, nous avons peut-être fait un pas de plus en examinant notre vie à la lumière de la vie de Jésus. Dieu nous appelle à vivre comme Jésus a vécu. Jésus a vécu cette vie parfaite et c'est grâce à lui que nous pouvons bénéficier du salut. Parce que par sa vie parfaite, il a pu aller jusqu'au bout et mourir à la croix afin de porter nos péchés. Et pour nous donner, maintenant que nous avons son esprit en nous, la capacité de vivre comme il nous le demande. Comme Jésus a gardé les commandements de Dieu, nous sommes appelés à garder ses commandements, à lui obéir parce que nous voulons lui être agréables, parce que nous l'aimons. Et comme lui nous a aimés, nous sommes appelés à aimer celui et celle que nous appelons frère ou sœur, à nous en soucier. C'est le nouveau commandement qui correspond à notre nouvelle vie. Chers amis, nous sommes dans un monde rempli de distractions, dans un monde qui propose de vivre 1000 vies à la fois. Pourtant, nous n'en avons qu'une seule. Dieu nous donne une seule vie pour vivre comme Jésus. Une seule. Et vivre autrement reviendrait à gâcher sa vie. Vivre autrement reviendrait à rater sa vie. J'ose le dire. Alors que le Seigneur nous vienne en aide, dans sa grâce, et qu'il nous accorde un nouvel élan pour lui obéir, un nouvel élan pour l'aimer, un nouvel élan pour aimer notre prochain, et tout particulièrement nos frères et sœurs. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est si claire et qui nous exhorte à vivre cette vie nouvelle, cette vie à l'image de Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite en toute obéissance, qui nous a montré comment aimer les autres et combien nous avons besoin d'être façonnés encore par toi, que ton esprit travaille en nous et que à travers aussi ta parole, nous puissions savoir exactement ce que tu attends de nous. S'il te plaît, aide chacun à pouvoir vivre cette seule vie que tu nous donnes pour ta seule gloire. Aide-nous à vivre cette seule vie que tu nous donnes pour pouvoir vivre comme Jésus. Et que de cette manière-là, nous puissions être des témoins lumineux là où tu nous as placés. Que de cette manière-là, les autres puissent te connaître en voyant comment tes disciples vivent. Et aide-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses en nous, que tu nous donnes ce désir nouveau de te suivre, de nous engager de nouveau avec toi peut-être. Mais permets-nous, Seigneur, oui, de pouvoir t'aimer de tout notre cœur, comme tu nous le commandes. Et de pouvoir aimer nos frères et sœurs comme tu nous le commandes. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.